Pour la énième fois, nous allons lire le texte du début de l'épître de Pierre. De nouveau, donc, nous lirons les versets 3 à 9. 1 Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous l'avons lu, nous en avons parlé. L'épreuve de la foi est présentée comme une nécessité. Cette foi qui est confiance au Dieu éternel, au Dieu rémunérateur de ceux qui le cherchent, cette foi qui est et reste une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître ce qu'on ne voit pas. Vous avez reconnu les versets de Hébreux 11. Cette foi est éprouvable. Cette foi se doit d'être éprouvée pour être reconnue telle. Comme l'or, pour être épuré de ce qui est inutile, voire même de ce qui lui est préjudiciable, la foi doit passer par le creuset. Aussi difficilement acceptable que cela nous paraisse. Car effectivement, ce n'est jamais de gaieté de cœur que l'on pense au creuset, que l'on pense au crible auquel Jésus faisait allusion lorsqu'il disait à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Non, il n'y a aucun plaisir à envisager la chose sous cet angle. Dieu s'applique à notre formation. Nous avons lu dans Hébreux au chapitre 12, la manière dont il s'occupe de ceux qui sont ses enfants. Le mot utilisé est utilisé pour généralement parler de l'éducation, de l'instruction, de la formation, et inclut dans les sens qu'il a le mot de correction. C'est peut-être celui qui nous dérange le moins, le plus, et celui que nous aimerions ne pas appliquer à nos circonstances. Cependant, il nous est dit, je l'ai rappelé tout à l'heure, que Jésus a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ainsi, le texte d'Hébreux nous invite à supporter l'éducation, correction, je n'en ferai qu'un seul mot, car c'est la preuve que Dieu nous traite comme ses enfants. Autrement, il se désintéresserait de nous, et vous avez peut-être été heurté par l'expression « si le Seigneur ne fait pas cela avec vous, c'est que vous êtes des fils illégitimes ». Permettez une parenthèse qui, à mon avis, n'est pas sans importance. Nos instantes prières, fréquentes, répétées, demandant la délivrance de l'épreuve, de la maladie souvent, pour quelqu'un d'autre ou pour nous. La délivrance de cette épreuve, sous quelque forme qu'elle se présente, ces prières, ces instantes prières, se heurtent souvent au silence de Dieu. Nous avons l'impression que Dieu ne répond pas. Et ce n'est pas une simple impression. C'est une réalité. La raison de ce silence ne serait-elle pas que nous demandons à Dieu d'enlever, d'ôter de notre route, les obstacles qui s'y dressent et souvent s'y pressent? Mais honnêtement, peut-on seulement penser gagner une course d'obstacles sans jamais avoir franchi d'obstacles? En essayant, en s'évertuant, en s'appliquant à les contourner tous? Impossible. Il y a donc à repenser notre relation à l'épreuve, notre relation à la difficulté. Je dis bien souvent, on pense maladie, mais il y a tellement d'autres moyens d'être criblés. Peut-être que si nous changions de formulation dans nos demandes, cherchant à savoir dans quel but cette chose se produit, pourquoi Dieu la permet? Pourquoi Dieu l'a-t-il voulu? Probablement qu'il y aurait pour nous beaucoup de surprises à la clé et beaucoup plus de réponses à nos prières que nous n'en obtenons dans le présent. C'est en tout cas ce qui ressort pour moi de ces lectures que nous avons faites et qui nous montrent que malheureusement, notre condition impose l'exercice d'une autorité souvent contraignante. Nous ne sommes pas d'un naturel particulièrement docile. Tout à l'heure, on chantait « Sur mon cœur docile règne au bon berger ». Je vous dirai franchement que personnellement, je chante toujours « Sur mon cœur rebelle règne au bon berger ». Vous ne m'entendez pas parce que je ne le crie pas, mais c'est bien la parole que je chante. Car je ne suis pas par nature quelqu'un de docile, quelqu'un qui se plaît à courber le dos. Au contraire, vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'ai un tempérament qui n'est pas celui d'une savate. C'est peut-être parfois plus difficile à vivre. Car le Seigneur a des méthodes pour nous instruire. Et il a des façons de procéder au travers desquelles, en bon pédagogue, il va nous conduire au but recherché. Est-ce que ce n'est pas là où nous devrions faire un effort pour dire « Seigneur, mais que recherches-tu » plutôt que de te demander « Seigneur, délivre-moi de ceci, Seigneur, guéris-moi de cela ». Disons-lui « Seigneur, parle-moi par ceci, instruis-moi par cela. » Et alors, le but étant atteint, la chose vécue n'aura plus du tout la même importance. Elle aura même une plus grande importance. Parce que nous l'aurons vécue de la manière dont Dieu a voulu que nous la vivions. Pierre, tout comme Paul, nous invite à une découverte au travers de ce texte que nous avons lu et d'autres que nous verrons, celle de la relativité des choses. Je m'explique. En quel domaine font-ils cela? Eh bien, dans le domaine, ici, de l'épreuve de la foi ou de la foi éprouvée. Dans le domaine du test qui doit prouver la nature de la foi qui nous anime. Cette foi se situe dans le temps. Nous en savons quelque chose. En particulier, lorsque la chose dure. Eh bien, Pierre, nous le verrons avec Paul, relativise tout à fait la notion de la durée. De la durée de l'épreuve. Que dit-il ici? Il faut pour un peu de temps. Que vous soyez affligé pour un peu de temps. Et il va aussi en relativiser l'intensité. Nous allons le voir tout à l'heure. Un peu de temps, dit donc Pierre. Et Paul dira, lui, dans Corinthiens, le moment présent. C'est aussi une relativisation de la chose. Car le moment présent est un moment que nous vivons chaque jour que Dieu nous donne. Et ce moment présent qui se reproduit jour après jour peut être accompagné par cette épreuve que nous vivons dans le moment présent. Tous deux relativisent donc la durée de l'épreuve. Aucun des deux n'en a été exempté. Il nous suffirait de reprendre le texte biblique pour nous en rendre compte. Mais tous les deux ont une identique référence. Cette référence ne se compte pas en jours, en semaines, en mois, en années même. Pour dire la durée du test, cette référence, pour eux, c'est l'éternité. Et par rapport à cette éternité de Dieu, qu'est-ce que ce laps de temps, plus ou moins long pour nous, qu'est-ce? Un soupir, même si ça durait toute la vie, un soupir, une vapeur, dit le texte biblique. Peu de temps, tout est question de relativité. Il faut savoir lire. La référence pour eux est l'éternité. Au regard de cette éternité, que sont les quelques moments difficiles que le disciple aurait à vivre? Pierre et Paul relativisent aussi le poids de cette épreuve, son intensité, où ils n'en minimisent pas l'importance, la nature, cette souffrance qui atteint le peuple de Dieu. Ils la prennent en compte, mais non pas pour ce qu'elle est en elle-même, mais pour ce qu'elle est appelée à produire. Et alors on comprend cette relativisation. Lorsque notre investissement rapporte au centuple, disions-nous tout à l'heure, d'après le verset qui a été lu, dites donc, c'est un investissement valable en termes comptables. Nous serions prêts, n'est-ce pas, à investir tout de suite notre avoir disponible si nous savions que dans l'heure, il serait multiplié par 100. Et que ferions-nous si c'était multiplié par 1000? Ou plus encore, Paul relativise cela. J'aimerais reprendre librement le texte de 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Je pourrais lire le texte, mais je vais le prendre librement. Pas de découragement, dit l'apôtre. Si notre extérieur se détruit, notre intérieur se renouvelle. Vous connaissez ces paroles. Sachant cela, l'apôtre ajoute, sachant ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu, il faudrait peut-être aller faire un tour du côté des Corinthiens, au chapitre 11e, au verset 23. Voici, je suis tombé sur la bonne page. Il fallait donc que je lise ce passage. Voici le texte. Dans 2 Corinthiens 12, 23, la fin du verset 23. « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Et le texte pourrait continuer. Regardant cela, sachant cela, comment ne pas être interpellé par les paroles de l'apôtre dans 2 Corinthiens 4, où il parle de façon un peu plus littérale, de l'actuelle légèreté de notre détresse. L'actuelle légèreté de notre détresse, qui va agir de façon à produire en abondance. En superabondance, le mot est utilisé à 2 reprises dans le texte biblique. Hyperbolé, action de passer par-dessus la montagne, qui va donner dans un langage imagé, dépasser la mesure. Excès, surabondance. Alors la traduction pourrait être qu'en effet, l'actuelle légèreté de notre détresse produit de surabondance en surabondance, pour nous, un poids éternel de gloire. Quand je vous dis que l'apôtre relativise l'énoncé des misères qu'il a connues, il les considère comme étant la légèreté de notre détresse. Pourquoi donc? Parce que sur la balance, il y a un poids tel que rien ne peut être comparé à ce que va produire ou que vont produire ces légères détresses. Nous avons peut-être un peu de peine à accepter un tel langage. Nous qui ne sommes plus habitués à souffrir, nous dont la souffrance doit être prise en considération par le personnel soignant lorsque nous sommes à l'hôpital. Il n'y a pas très longtemps, j'y étais, vous le savez. Et on m'a susurré à l'oreille, alors que j'étais en train de sortir des vapeurs du sommeil artificiel, « Vous avez une pompe dans la main. Si vous avez mal, vous appuyez. » Et il m'est arrivé d'appuyer. Et d'appuyer. Pour calmer la souffrance. Ou peut-être instinctivement, parce que j'avais le truc dans la main et j'appuyais. C'était une pompe à morphine. Mes amis, j'étais plus mal à cause de la morphine qu'à cause de l'opération. Au moment où j'ai compris cela, j'ai arrêté la pompe, du moins son utilisation. J'ai fait enlever le produit le lendemain. Je marchais dans les couloirs. On a aujourd'hui à traiter la douleur et je crois qu'il faut le faire. Ce serait anormal de laisser souffrir quelqu'un si on peut le soulager. Mais je vous dirai franchement que je préfère avoir un peu mal que me sentir très mal. Ainsi, en est-il en face de ce que Dieu permet? Et il nous faut savoir regarder les choses avec d'autres yeux et comprendre que l'épreuve que Dieu permet n'est pas une épreuve gratuite. Il en connaît la raison, il en connaît le but. Et alors il faut peut-être avec l'apôtre comprendre comment il est arrivé à considérer comme légère les détresses qu'il connaissait. Il le dit au chapitre suivant. Ses yeux ont quitté le visible pour regarder à ce qui n'était pas visible. Parce qu'il a constaté que les choses visibles étaient passagères et les invisibles étaient éternelles. Et en vivant dans le concret, dans le visible, certaines difficultés, il ne faisait qu'être préparé pour ce qui subsisterait, pour ce qui demeurerait. Et cela au détriment du provisoire. Je dis bien du provisoire, de ce qui est de passage, c'est le sens du mot, de ce qui est rapide, de ce qui court. C'est le sens du mot utilisé. Et nous accordons beaucoup d'importance à ce qui est passager, à ce qui court, à ce qui est rapide, à ce qui fuit. C'est une erreur monumentale. Nos légères afflictions produisent pour nous de surabondance en surabondance un poids éternel de gloire. Souvenons-nous que pour un esprit juif, il y a là presque une répétition. Lorsqu'il parle de poids éternel, de gloire, le poids et la gloire, pour un juif, c'est le même mot. C'est le mot poids, c'est le mot de quelque chose de pesant, de quelque chose de réel, de quelque chose de concret, de quelque chose que l'on peut remarquer. Ainsi, ce sera la richesse et autres, le poids, la gloire d'une personne. La gloire d'Abraham, c'était l'importance qui était la sienne, en tant que chef de clan, chef de tribu, propriétaire d'un cheptel impressionnant, etc. C'était sa gloire, c'était son poids. Les Américains ont bien compris la chose, puisqu'ils se demandent combien ils pèsent au plan économique, c'est-à-dire combien ils gagnent. Nous, on utilise aussi le mot pèse, mais pas dans le même sens. Pierre, pour ce qui le concerne, s'applique à comparer la valeur éprouvée, c'est le sens littéral du mot, la valeur éprouvée de la foi en la mettant en comparaison avec l'or étant éprouvé par le feu. Je donne là le mot à mot du texte grec. La valeur éprouvée de la foi mise en comparaison avec l'or étant éprouvé par le feu. Et cette comparaison, chez Pierre, tourne à l'avantage de la foi. Pourtant, la référence, c'est l'or. Ce que l'on appelle aujourd'hui encore la valeur refuge. Surtout en période de crise économique. Je n'ose pas vous poser une colle, je risquerais d'être surpris car vous seriez peut-être capable de répondre. Savez-vous de combien l'or a augmenté depuis l'année dernière? Bien sûr, si vous n'avez pas acheté cet an dernier, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais je le sais sans en avoir acheté. Il a augmenté de 37%, de plus de 37%. Valeur refuge. cet or est périssable. Périssable. Il va disparaître. Ça, il ne sera pas coté de tout temps. Dans l'éternité, il aura une valeur nulle. Zéro. Et celui qui se confie en cette valeur refuge est plus périssable encore que l'or lui-même. Par contre, la valeur éprouvée de la foi, dit le texte, est beaucoup plus précieuse que l'or. Pourquoi donc ? Mais parce que cette valeur sûre, la seule qui soit véritablement sûre, au-delà du temps, est celle qui nous garantit la présence même de Dieu. La valeur éprouvée de la foi participe d'ailleurs et de façon déterminante, nous dit le texte, à la louange, à la gloire, à l'honneur de Dieu. Quelle belle perspective pour la foi qui nous anime, si nous sommes animés par elle. Voici comment Paul parle encore de ce dessein de Dieu concernant les croyants, qui sont appelés, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens 6, 1. Dans ce même chapitre, au verset 14, au verset 12 d'abord, nous lisons que nous devons servir à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, et au verset 14, il ajoute encore que l'Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La foi éprouvée, reconnue-t-elle, contribue à la louange de Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui parle, le Dieu qui fait reposer sur nous, si j'ose dire, sa gloire. Nous avons, en tant que disciples de Jésus-Christ, le privilège de contribuer à la louange de la gloire, à l'honneur de notre Dieu, lorsque notre foi est reconnue une foi sûre, une foi éprouvée. Lorsque nous avons fait nos preuves, nous sommes approuvés. On pourrait reprendre le texte, on a les deux expressions qui sont la traduction du même mot d'ailleurs. Éprouvé, approuvé. Car effectivement, celui qui a fait ses preuves est approuvé derrière et accompagné. On pourrait, si vous le voulez, y revenir en d'autres circonstances. Mais quand donc se manifestera cet élan de louange et d'action de grâce? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors ici, vous ne savez peut-être pas, mais ce que nous avons ici pour apparaître, c'est le mot Apocalypse. Lorsque nous parlons Apocalypse, nous parlons prophétie, temps de la fin, etc., etc. Non. Le mot Apocalypse signifie révélation. Ou, si vous préférez, dévoilement. C'est le fait de se découvrir. De découvrir quelque chose. De le rendre accessible à la vue. Mais lorsque Jésus-Christ apparaîtra, quel éblouissement cela va être pour le peuple de Dieu, celui dont il est dit juste derrière. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Mais le disciple est là, dans cette attente, et déjà, il anticipe ce dévoilement, cette révélation du Fils, son Sauveur et son Seigneur. Lui qu'il aime sans avoir vu. Heureux, disait Jésus à Thomas, ceux qui ont cru et n'ont pas vu. La vue n'est pas nécessaire à l'amour. La parole de Dieu transcende l'absence même d'image à contempler. C'est elle qui nous révèle, qui nous fait voir, qui nous fait découvrir ce Fils qui s'est donné pour nous. C'est elle qui alimente en nous les sentiments qui nous poussent vers lui et nous le font aimer sans que nous ne l'ayons jamais vu. Et c'est cet amour nourri, alimenté, grandi par l'aliment unique de la parole de Dieu qui vient faire, c'est assez curieux, qui vient faire que nous espérons encore, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Ce n'est pas la foi qui vient alimenter notre amour, c'est l'amour qui vient alimenter notre foi. C'est cet attachement au Seigneur Jésus-Christ qui nous fait désormais l'attendre avec plus de passion, avec plus de tension. Et ce, au travers des vicissitudes de la vie, au travers des difficultés rencontrées, au travers des souffrances éprouvées, au travers de ces interventions de Dieu qui nous éduquent, qui nous forment, qui nous parlent, qui nous façonnent, qui nous instruisent, qui nous fait grandir, parce que son projet, c'est de reproduire en nous l'image même de son Fils. Bien-aimé, c'est dans cette anticipation du face-à-face que les lecteurs de l'apôtre jouissent d'une joie indicible. Le mot qui est ici vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Indicible et glorifiée, pour être plus juste dans la traduction. Une joie qu'on ne peut pas dire et une joie qui déjà, par Dieu lui-même, atteinte à l'exaltation. Ainsi, l'absence de vue n'empêche pas l'élan du cœur, ne l'altère aucunement. Le peuple de Dieu aime son Sauveur et est renouvelé dans son attente du bien-aimé. Ainsi, nous allons maintenant nous arrêter pour revenir au point de départ. Le point de départ que nous avons trouvé dès le début de la lecture des versets 3 et suivants était que Dieu nous avait généré de nouveau pour le salut. Je prends le raccourci. Et qu'y a-t-il ici ? Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le voici de nouveau, l'apôtre nous ramenant à ce qui est l'objet même de l'œuvre de Dieu lorsqu'il nous initie, lorsqu'il nous régénère, lorsqu'il nous attire à lui. Le salut. Eh bien, ce salut est notre partage. Ce salut, nous pouvons le vivre dans le concret de notre quotidien en acceptant l'œuvre éducatrice de notre Père Céleste et en rendant possible l'appropriation de certaines paroles que nous avons de la peine à lire. Pourtant, pour arriver à les prononcer et à les faire siennes, encore faut-il que nous prouvions la valeur de notre foi, mais en fait, ce qui le permet, c'est ce qui rend possible l'existence de cette foi éprouvée. Je lis simplement des paroles qui nous laissent un peu quoi, comme Paul lui-même, comme celles de Paul ont pu le faire. Et je terminerai simplement par la lecture de Jacques 1, au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve d'autrefois produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Que Dieu nous aide à considérer, à regarder comme un sujet de joie complète ses interventions dans notre vie, et qu'ainsi nos prières elles-mêmes changent parce que nous avons compris que l'épreuve est voulue par Dieu pour le positif qu'elles entraînent dans nos cœurs. Et la même épreuve, c'est le même mot, est voulue par le diable pour le négatif que cela peut produire. Peut-être faudrait-il que notre relation à Dieu change le sens du mot. D'un côté, c'est épreuve, de l'autre côté, c'est tentation. C'est le même mot. D'un côté, c'est un désir de bien, de l'autre côté, c'est un désir avoué de mal. D'un côté, c'est pour construire, de l'autre côté, c'est pour détruire. Notre épreuve est-elle épreuve ou tentation? Je souhaite de tout mon être que notre façon de la regarder en fasse une épreuve réelle, comprise, acceptée, parce que voulue de Dieu, et nous permettant de nous épanouir dans sa présence. Dieu le veuille. Nous continuerons, Dieu voulant, la semaine prochaine, non, dans 15 jours, sur ce sujet de l'épître de l'apôtre Pierre.